Alors, si je suis devant vous ce matin, ce n'est pas pour faire un meeting politique, mais c'est plutôt une exhortation, un encouragement pour votre vie chrétienne, pour notre vie chrétienne. C'est un encouragement aussi en tant que serviteur de l'Église que vous êtes, et c'est un encouragement aussi pour l'Église elle-même. Dans le psaume 55, au verset 6, nous lisons ces paroles puissantes. « La crainte et l'épouvante m'assaillent et le frisson m'enveloppe. » Qui n'a pas ressenti ce sentiment de peur et de crainte? Cette peur qui nous prend et qui nous enveloppe. La peur submerge. La peur empêche de faire quoi que ce soit. Tout s'assombrit. Et on est incapable de voir clairement, d'agir, et même d'avancer. Ce sentiment est, je crois, quelque chose que nous partageons tous. Qui n'a pas eu peur? Qui n'a pas peur? Je parle de la peur, ce sentiment sournois qui se faufile dans nos vies pour nous empêcher d'avancer dans la foi. Elle s'immisce dans notre vie et nous ralentit. Elle ralentit notre marche avec le Seigneur. La peur peut nous empêcher de reconnaître l'action de Jésus dans nos vies. La peur peut nous empêcher de répondre à l'appel de Jésus dans notre vie. La peur retient même des bénédictions de Dieu pour nos vies. Mais la peur n'est pas le moteur. C'est souvent la conséquence d'un mal plus profond, le doute. Nous doutons. Nous doutons de ce que Jésus est. Nous doutons de ce que Jésus a accompli. Et nous doutons de ce que Jésus peut accomplir dans nos vies. Le doute, mes frères et sœurs, c'est l'ennemi de la foi. Et il se traduit souvent par des sentiments de peur, de crainte, et qui reflètent l'incompréhension. À ce titre, la peur est un danger pour le disciple de Jésus. La peur est un danger dans le sens où elle masque Christ à notre vie. Christ, c'est notre vie. C'est la vie éternelle. Tout est accompli par lui, tout est accompli pour lui, et donc il peut tout pour nous. Il souhaite que nous prenions possession de ses promesses pour notre vie. Et il souhaite aussi réaliser des prouesses dans notre vie. Je vous invite à lire ce matin dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 14, et nous lirons du verset 22 à 26. Dans premier évangile, Matthieu 14, versets 22 à 36. Aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là, seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car les vents étaient contraires. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur les eaux. Quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous !» « C'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et Jésus dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il cria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit sa main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Ce passage que nous venons de lire, vous le connaissez. Vous le connaissez, et je dirais que même en dehors du monde chrétien, on le connaît. C'est une, C'est une histoire qui fait écho souvent, même dans la vie de tous les jours. Le passage que nous venons de lire se trouve dans l'évangile de Matthieu. Matthieu, c'est ce collecteur d'impôts de métier, un des douze disciples que Jésus appela à le suivre. Et Matthieu est juif. Et dans son évangile, Matthieu a le souci de montrer que Jésus est le roi qui devait venir. C'est lui qui, dès le début de l'évangile, dresse le tableau de la généalogie de Jésus. Comme il dit au chapitre 1, verset 1, « Jésus, fils de David, fils d'Abraham, etc. » Matthieu appelle souvent Jésus « fils de David ». Et il s'attache à montrer que Jésus est le Messie qui devait venir et qu'il a à ce titre accompli les prophéties. L'évangile de Matthieu, c'est l'évangile le plus judaïque des quatre évangiles. Et son évangile s'organise autour d'axes forts, puissants. La naissance de Jésus et le début de son ministère, le sermon sur la montagne qui prend trois chapitres, mais aussi des guérisons, l'envoi des douze en mission, des enseignements puissants sur le royaume des cieux et un discours sur les temps qui doivent venir, le fameux discours au mont des Oliviers. C'est aussi, bien sûr, la passion du Christ dans les derniers chapitres. Mais Matthieu aussi montre des miracles qui proclament que Jésus est celui qui devait venir, le Fils de Dieu qui a reçu toute autorité dans le ciel et sur la terre. Et deux miracles tiennent une place importante dans ce sens. Le miracle de la multiplication des pains pour les 5000 personnes, qui se reproduira d'ailleurs, et le miracle de Jésus qui marche sur les eaux. Notre passage se situe à un moment donné particulier du ministère de Jésus. Jésus parcourt la Décapole. La Décapole, c'est ce district grec d'environ d'une dizaine de villes qui touche la Galilée. Dans la Décapole, on connaît la ville de Gadara, c'est la ville où Jésus délivrera un démoniaque. Jésus parcourt les villages et il enseigne la repentance du royaume de Dieu. Il se rendit alors en Galilée, à côté de la Décapole, et plus précisément à Nazareth, sa patrie. Jésus, là, dut faire face à l'incrédulité du peuple. Cette époque, ce moment du ministère de Jésus, c'est aussi le moment où il appelle ses disciples à la mission. Et il les envoie deux par deux. Il les envoie pour deux par deux en leur donnant le pouvoir sur les esprits impurs. Et les disciples avaient cette triple mission à ce moment-là de prêcher la repentance, de chasser les démons et de guérir le malade. Et après ce temps de mission, les apôtres viennent donc rendre compte à Jésus, leur parler du résultat de leur mission. Deux motifs à ce moment-là vont pousser Jésus et ses disciples à se mettre à l'écart dans un lieu désert. Il nous est dit dans le passage de l'évangile de Marc, au chapitre 6, qu'il y avait beaucoup de monde qui allait et venait, et les disciples ne trouvaient même pas le temps de manger. Ils avaient besoin d'un temps de repos. Mais un deuxième motif pousse aussi Jésus et ses disciples à aller dans un endroit désert. Et ce motif est plus fort. C'est le meurtre de Jean-Baptiste. Il nous est dit dans l'évangile de Matthieu, dans le chapitre que nous avons lu, peu avant, que les disciples de Jean vinrent prendre son corps et le mirent dans un sépulcre, et allèrent l'annoncer à Jésus. Et à cette nouvelle, Jésus partit de là pour se retirer. Il se retire donc dans un lieu désert, proche de la ville de Bethsaïda. Mais à leur arrivée, pensant se reposer, ils font face à une grande foule. Une grande foule est là, suit Jésus et attend. Et Jésus fut pris de compassion pour cette foule. C'est là que Jésus va enseigner sur le royaume de Dieu. Il va guérir les malades dans cette foule. Et il accomplit à ce moment-là le miracle de la multiplication des pains pour les 5000 personnes. Ce miracle vient proclamer ce qu'est Jésus. Ce miracle, comme celui qui suit, montre avec force que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qui peut tout, qu'il a toute autorité et que tout lui a été donné. Ce miracle proclame avec puissance que Jésus est celui qui pourvoit à nos besoins, qui nous rassasie. Jésus accomplira d'ailleurs dans un sens plus grand les promesses qui ont été faites à son peuple dans le désert. Si Dieu, par Moïse, a pris soin du peuple dans le désert, lui a fait prendre possession du pays promis, comme il est dit, « Tu leur as donné du haut des cieux du pain quand ils avaient faim, tu les fis sortir de l'eau du rocher quand ils avaient soif, tu leur dis d'entrer dans le pays promis que tu avais juré de leur donner. » Si Dieu avait proclamé ça à son peuple dans le désert, Jésus-Christ allait accomplir un miracle plus grand, un miracle plus puissant pour ceux qui allaient croire en lui. Il allait nous rassasier, non pas du pain que nous prenons, mais du pain de vie. Et le pain de vie, c'est lui. C'est lui, le Fils de Dieu, qui vient dans le monde pour sauver celui qui croit. C'est lui qui, par lequel nous n'aurons plus jamais faim et par lequel nous n'aurons plus jamais soif. Quiconque croira en lui aura la vie éternelle. C'est lui, c'est Jésus-Christ qui nous fait prendre possession de ce pays promis pour nous aujourd'hui. Et ce pays promis, c'est la vie éternelle en lui. Les gens qui avaient vu le miracle de la multiplication des pains avaient saisi que Jésus était le prophète qui devait venir. D'ailleurs, ils le disent eux-mêmes. En Jean 6, au verset 14, il nous est dit que les gens, lorsqu'ils ont vu le miracle de la multiplication des pains, ils disaient « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Ils reconnaissent Jésus comme le prophète qui doit venir. Mais ils ne reconnaissent pas Jésus comme le sauveur qui doit venir. Ils considèrent Jésus comme un roi terrestre, quelqu'un qui est venu pour les délivrer de la captivité dans laquelle ils sont, mais dans une captivité humaine, et non pas dans la captivité spirituelle dans laquelle ils se trouvent. Ils reconnaissent Jésus en tant que roi, mais ils ne reconnaissent pas celui dont ils devaient écouter les paroles, qu'ils devaient suivre. Et d'ailleurs, il nous est dit que le peuple, la foule qui était là, voulait enlever Jésus pour le faire roi. Et en voyant cela, Jésus renvoya ses disciples et se retira sur la montagne seul. Les disciples, à ce moment-là, n'avaient pas saisi non plus eux qui était Jésus vraiment. Ils n'avaient pas saisi ce que Jésus pouvait accomplir pour leur vie. Et à ce moment-là, les disciples se trouvent séparés de Jésus. Jésus part seul sur la montagne pour prier, et les disciples sont renvoyés pour faire marche arrière, pour faire le retour de l'autre côté. Et je voudrais ce matin qu'on regarde deux situations dans notre passage. La venue de Jésus sur les eaux auprès de ses disciples et la réaction de Pierre. Le soir est venu, mais la journée des disciples n'est pas terminée. Avec tout ce qu'on a vu, vous imaginez, les disciples étaient partis dans un lieu désert pour se reposer. Tout s'est passé, sauf le repos. Ils étaient partis pour se reposer et la journée n'est toujours pas terminée. Ils ont été obligés de nourrir la foule, alors qu'ils ne le voulaient pas. Ils n'ont pas saisi le miracle de la multiplication des pains. Jésus les renvoie. Le soir vient et ils sont obligés de nuit de monter dans la barque. Et par-dessus le marché, le vent souffle. Le vent souffle et la mer est agitée. Ils doivent faire la traversée de nuit dans une barque qui est agitée de tous les côtés. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots car le vent était contraire. Les disciples ne sont pas dans une situation simple. Ils rament, et c'est le cas de le dire. Et Jésus est à terre dans la prière. Mais il nous est dit en Marc 6, au verset 48, que Jésus vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent était contraire. Et vers la quatrième veille de la nuit, c'est-à-dire entre 3h et 6h du matin, Jésus alla vers eux, marchant sur les eaux. Et là, en voyant Jésus sur les eaux, les disciples furent troublés. Quand ils virent marcher sur la mer Jésus, ils crurent que c'était un fantôme et ils poussèrent des cris. Les disciples sont effrayés, Jean nous dit, ils eurent peur. Mais Jésus leur dit, rassurez-vous, n'ayez pas peur, c'est moi. Alors cette première situation me parle et me donne, je trouve, un enseignement intéressant pour nous en tant que disciples de Christ. Nous pouvons être comme les disciples. Nous pouvons traverser dans nos vies des tempêtes, ou même des journées interminables, des situations qui n'en finissent pas, et même penser que nous recherchons des situations simples et au final elles se trouvent complexes et nous saisissons pas tout. Ces situations ne sont pas simples et on rame. Et dans ces situations, souvent, nous sommes dans un état d'esprit troublé et nous avons du mal à voir clair. Pour nous, comme pour les disciples, le Seigneur voit nos difficultés. Il ne laisse pas ses enfants et il vient à nous. Combien de fois le Seigneur se présente devant notre porte ? Combien de fois le Seigneur vient taper à notre porte et nous ne lui ouvrons pas ? Combien de fois il nous montre un chemin, mais il y a tant de choses dans nos vies qui nous empêchent de le reconnaître. Ici, les disciples prennent Jésus pour un fantôme et ils sont pris de peur. Marc nous dit qu'ils le voyaient tous, mais ils étaient troublés. Pendant un temps, ils ne reconnaissent pas Jésus. La peur prend le dessus. Et je crois que c'est pareil pour nous. Dans nos vies chrétiennes, dans notre service, même pour le Seigneur, ou même dans l'Église, la peur a vite fait de prendre le dessus. Elle a vite fait de prendre le dessus et de nous empêcher de voir Jésus. La peur peut nous empêcher de voir la main de Dieu dans nos vies. La peur peut nous empêcher de voir l'action de Jésus dans nos vies. La peur peut aussi nous empêcher de voir la volonté de Dieu pour l'Église. Souvent, cette peur n'est pas due aux événements que nous vivons, mais à l'état de notre cœur. Pourtant, Jésus vient vers nous pour nous rassurer. Plus encore, non seulement il vient vers nous, mais en plus il veut venir chez nous, dans nos vies. Jésus vient vers ses disciples et leur dit « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Il veut rassurer ses disciples. Et même plus encore, il monte dans la barque avec eux. Et une fois qu'il est monté dans la barque avec eux, il nous est dit que le vent, c'est ça. Jésus veut non seulement nous rassurer, mais plus encore, il veut être à nos côtés. Il veut être avec nous. Et nous avons cette réalité dans nos vies chrétiennes. Quand vous avez fait ce choix de suivre Jésus, vous avez cette promesse de Jésus qui vous est faite. Et c'est Jésus lui-même qui le dit. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Cette réalité est pour celui qui croit. Et il en est de même lorsque nous traversons des tempêtes. Il en est de même dans notre vie chrétienne. Le Seigneur ne se contente pas de venir vers nous pour nous rassurer. Il veut être avec nous dans notre vie, à nos côtés. Jésus ne se contente pas de nous regarder. Il vient agir dans notre vie et faire cesser le vent. Encore faut-il l'accueillir. Encore faut-il l'accueillir. Est-ce qu'on a vraiment envie de laisser monter Jésus dans notre barque ? Lorsque Jésus monte dans la barque des disciples, il nous est dit que le vent cesse. Et les disciples sont stupéfaits et étonnés à ce moment-là. Ils sont stupéfaits de voir que le vent se calme. Marc est le seul, dans son évangile au chapitre 6, à donner une cause à l'attitude des disciples à ce moment-là. C'est le seul qui nous donne cette précision. Pourquoi les disciples sont stupéfaits et étonnés de voir la puissance de Jésus agir ? Il nous est dit en Marc 6, au verset 52, ils sont stupéfaits et étonnés parce qu'ils n'ont pas compris le miracle de la multiplication des pains, parce que leur cœur était endurci. Il est même dit dans d'autres traductions, parce que leur intelligence était aveuglée. Ils n'en auraient pas été ainsi s'ils avaient compris la multiplication des pains. S'ils avaient reconnu à ce moment-là, au travers de ce miracle, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est celui qui peut tout, ils auraient, au moment où Jésus vient vers eux sur l'eau et qu'il monte dans la barque, ils auraient pu à ce moment-là saisir la puissance de Jésus. Ils auraient pu alors être dans la confiance et non dans la peur. Ils auraient pu être à ce moment-là rassurés bien avant. La cause de ce manque de confiance et de cette peur se trouve dans leur cœur endurci. Est-ce que nous connaissons Jésus ? Est-ce que nous connaissons Jésus comme il veut que nous le connaissions ? Est-ce que nous reconnaissons Jésus comme il veut que nous le reconnaissions dans nos vies? C'est-à-dire celui qui peut tout. Pas celui que nous adorons, qui est loin, qui est un Dieu au-delà de nos pensées. Est-ce que nous reconnaissons Jésus comme celui qui veut être le maître de nos vies? Les disciples ont vu le miracle de la multiplication des pains. Ils y ont pris part. Peut-être à contre-cœur, mais ils y ont pris part. Mais ils n'ont pas saisi le sens de ce miracle. La puissance révélée de Christ, celui qui peut tout, celui qui nous rassasie, celui qui comble nos vies. Et au moment de la tempête, ils ne sont pas prêts à reconnaître que Jésus-Christ est tout-puissant. Bien, je pense que dans nos vies, nous ne sommes pas très éloignés des disciples. Nous pouvons être aussi facilement dans la même situation qu'eux. Nous pouvons bien souvent laisser Jésus de côté et ne pas saisir ce qu'il veut pour nos vies. Notre cœur est si endurci, notre intelligence est si aveuglée qu'elle nous empêche de reconnaître Jésus comme notre Seigneur. Jésus-Christ est celui qui est tout accompli. Donc c'est celui qui peut tout pour vos vies. Au lieu de ça, nous préférons le mettre de côté. Au lieu de cela, nous ne l'invitons même pas à monter dans notre barque. Et quand des difficultés viennent, ça se traduit par des choses qui sont incroyables dans nos vies. Quand vient la tempête, au lieu de faire confiance à Jésus, on s'isole. On préfère ne pas venir à l'église. On préfère pendant un laps de temps ne pas lire la parole de Dieu. On n'en a pas le courage. On préfère aussi ne pas se confier à lui. On ne prie pas. On s'isole. On ne laisse pas Jésus monter dans notre barque. Alors nous ne voyons même plus la présence de Jésus. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Il est où? Il n'est même pas là à mes côtés. Nous perdons confiance. Nous perdons confiance non pas parce que Jésus n'est pas là, mais parce qu'on n'en veut pas. Quand nous traversons des tempêtes, et même dans la vie de tous les jours, sans traverser des tempêtes, un ennemi a vite fait de prendre la place de la confiance. C'est le doute. Et il se traduit souvent par ces sentiments de peur, de crainte et d'incompréhension. Cette peur, à ce moment-là, nous oppose à Jésus. Ou tout du moins, elle met un voile devant nos yeux pour nous empêcher de considérer Jésus dans nos vies. Cette peur masque à nos yeux la nécessité de Jésus dans vos vies. Pourtant, Christ, dans sa grâce, ne nous laisse pas seuls. Il vient quand même vers nous. Il ne nous laisse pas dans notre incrédulité. Il nous dit, n'aie pas peur, c'est moi, je suis là. Jésus est là. Vous savez, lorsque Jésus se trouve à proximité des aveugles, à un moment donné, il dit aux aveugles, « Qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous ?» Et Jésus savait très bien ce dont ils avaient besoin. Mais il voulait l'entendre de leur bouche. Et qu'est-ce que disent les aveugles? Ils crient au Seigneur et disent, « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent !» Que nos yeux s'ouvrent! Et Jésus leur ouvre les yeux et ils le suivirent. Nous avons besoin, nous aussi, que Jésus ouvre nos yeux. Et le Seigneur veut que nous le demandions d'ouvrir nos yeux, pour que nous le voyions tel qu'il est, celui qui peut tout, celui qui a tout accompli. Jésus vient à nous pour nous délivrer, et il veut que nous le reconnaissions comme tel. Alors l'autre aspect que je voulais souligner ce matin, qui est dans cette situation, est la réaction de Pierre. Alors on ne peut pas la déconnecter de ce passage, parce que Pierre est parmi les disciples, mais la réaction de Pierre est quand même intéressante. À la réponse de Jésus, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur », Pierre intervient, dit Matthieu. Pierre, c'est le disciple qui est plein et total, celui souvent qui prend la parole à la place des disciples, ou celui qui représente les disciples, souvent quand une question est posée de la part de Jésus. Et Pierre, là, il est entier. Il semble saisir et reconnaître la puissance de Jésus, son maître, à ce moment-là. Et il demande à Jésus de pouvoir venir aussi auprès de lui sur les eaux, si c'est bien lui. Et il dit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et la réponse de Jésus est, « Viens, Pierre, viens vers moi. » Jésus répond à la demande de Pierre. Et la réaction de Pierre, je pense, est véritable. Il a foi en son maître. Et il se dit, si c'est vraiment Christ, alors il me rendra capable d'aller vers lui. Jésus ne le repousse pas. Il lui dit, viens. Il l'invite à venir vers lui. Et Pierre, par la foi, marche sur les eaux. Il marche sur les eaux malgré des circonstances défavorables. Rappelez-vous, il y a du vent, il y a la tempête, mais il marche sur les eaux en direction de Jésus. Mais à un moment donné, voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Pierre regardait à Jésus. Il répond à l'appel de Jésus. Mais à un moment donné, son regard se tourne. Il ne regarde plus à Jésus, mais il regarde aux éléments qui sont autour de lui. Pourtant, les éléments n'ont pas changé. Quand il a commencé à mettre le pied dans l'eau, le vent était déjà défavorable. Pourtant, il regardait à Jésus à ce moment-là. Maintenant, le vent est toujours défavorable, mais au lieu de regarder à Jésus, il regarde à ce qui se passe autour de lui. Et quand il se rend compte de la tempête et des vents forts, la peur le prend. La peur l'envahit et il commence à s'enfoncer dans l'eau. Et alors il s'écrie à Jésus, « Sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main et le saisit. Et le ramène à lui. Et il lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Alors je vous rassure, tous les jours dans notre vie, le Seigneur Jésus a l'occasion de nous dire, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Mais Jésus ne laisse pas Pierre. Il lui tend la main pour le saisir malgré son manque de foi. Alors cette scène de Pierre n'est racontée qu'ici dans l'évangile de Matthieu. Mais elle est intéressante. Et bien souvent, nous sommes comme Pierre. Nous voulons bien reconnaître que Jésus agit dans nos vies. Nous voulons bien le reconnaître que c'est lui qui agit. Et même encore plus, nous saisissons l'appel quand il nous dit « viens ». Nous sommes prêts à saisir cet appel. Et nous y répondons. Nous faisons même ce pas de foi pour aller dans sa direction. Cette foi qui fait que même si les événements autour de nous ne s'y prêtent pas, nous répondons à l'appel de Jésus parce que nous regardons à lui et parce que nous voulons considérer cet appel pour notre vie. Mais quand nous détournons, ne serait-ce qu'un instant, les yeux de Christ, alors là, nous commençons à considérer alors tous les événements de notre vie, tout ce qu'il y a autour de nous, tout ce qui a de l'importance, tout ce qui peut être considéré comme un poids aussi, les situations, les vagues de notre vie. Et là, nous prenons peur. Nous regardons à ce que ce pas de foi implique. Quand Jésus nous dit « viens », il nous dit d'aller vers lui, de lui faire confiance. Mais parfois, ce pas de foi, il commence à nous faire peur. Et nous devons considérer ce que nous devons lâcher, abandonner au sacrifice que cela représente, ou encore la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et on se dit « je suis mieux là où je suis finalement. Là où je vais, je ne sais pas ce que je vais gagner. » Ce que j'ai, ce n'est pas exceptionnel, mais c'est quand même ça. Et on préfère rester dans la situation dans laquelle on est. Et je crois qu'en regardant les événements de notre vie, nous pouvons rapidement perdre pied. Nous pouvons rapidement être submergés et avoir l'impression de nous enfoncer. Et quand on regarde trop à notre vie et plus assez à Jésus, nous perdons confiance. Et quand nous perdons confiance, le doute s'installe et nous n'avançons plus. La peur masque l'appel de Jésus. Elle vient mettre un poids, un fardeau qui nous empêche d'avancer vers lui. Elle nous paralyse et elle nous fait considérer cet appel finalement comme impossible. Ce que Jésus a rendu possible dans notre vie, nous le considérons maintenant comme impossible. Non pas parce que cet appel a changé, mais parce que notre cœur a changé. Notre considération a changé. Nos regards ont changé, mais lui n'a pas changé. Nous perdons pied et nous perdons foi. Alors pourtant, comme pour Pierre, nous savons que Jésus est là, encore une fois. Il est là et c'est lui qui nous appelle. Mais rien n'y fait, notre foi submerge notre peur. Notre peur submerge notre foi, pardon. Malgré tout, Pierre trouve la force de dire « Seigneur, sauve-moi ». Et Jésus le sauve. Jésus répond à celui qui est dans la détresse malgré sa faiblesse. Jésus sait que lorsqu'il nous appelle à lui, ce n'est pas quelque chose de simple. Et il sait aussi que dans notre faiblesse, nous traverserons des épreuves, nous traverserons des doutes, mais il est là. Il tend sa main et nous dit « N'aie pas peur, je suis avec toi ». Et Pierre crie à Jésus et Jésus ne le laisse pas dans la terreur. En Ésaïe 57, au verset 13, nous avons ces paroles puissantes de l'Éternel Dieu. L'Éternel Dieu dit « Quand tu crieras, la foule de tes idoles, la foule de tes idoles te délivrera-t-elle ? Non. Le vent les emportera toutes. Le souffle les enlèvera. Mais celui qui se confie en moi, dit l'Éternel, celui qui se confie en moi héritera le pays. Et il héritera le pays et il possédera ma montagne sainte. C'est une promesse de Dieu. Jésus veut bannir la crainte, la peur de nos vies et il souhaite que nous placions notre confiance en lui. Il veut que nous le reconnaissions, lui, celui qui peut tout, celui qui est mort à notre place. Il est le rocher de notre salut. La promesse est pour nous. La promesse est pour nous. Celui qui se confie en moi héritera le pays et possédera mon montagne sainte. C'est une promesse de Dieu. Jésus, notre Seigneur, veut nous sauver et veut nous délivrer de nos peurs, de nos craintes. Et il souhaite que nous placions notre vie entre ses mains, que nous gardons les yeux fixés vers lui et que nous saisissions ses promesses pour notre vie. Alors vous l'avez peut-être remarqué, ce qui est intéressant dans ce passage, c'est de voir que Pierre marche sur les eaux comme Jésus. Pierre fait la même chose que Jésus. Celui qui répond à l'appel de Jésus par la foi, Jésus le rend capable d'accomplir de grandes choses, les mêmes choses que lui. C'est une promesse de Dieu. Pierre ne doit pas surmonter des montagnes plus grandes. Il accomplit la même chose que Christ. Non pas parce qu'il le peut lui-même, mais parce que Christ le rend capable par la foi d'accomplir cela. Et Jésus nous donne cette promesse. Il nous dit en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et nous en avons la démonstration ici. Celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres que je fais et il en fera de plus grandes. Jean 14, verset 12. C'est un peu plus tard, lorsque Jésus posera cette question à ses disciples, que ses disciples vont vraiment saisir au fur et à mesure de leur cheminement avec le Seigneur que Christ est vraiment le Fils de Dieu. Ils vont le dire là, dans la barque. Ils vont le dire, mais ils ne l'auront pas encore saisi complètement. Parce que dans d'autres événements qui vont suivre, d'autres miracles, Jésus veut leur dire, mais vous êtes durs à l'entendement. Vous êtes durs à comprendre qui je suis vraiment. Et c'est un peu plus tard que lorsque Jésus posera cette question, « Que dites-vous que je suis ?» que Pierre répondra, encore Pierre, souvent pour les disciples tous ensemble, Pierre répondra, « Tu es le Christ, tu es le Fils du Dieu vivant. » Il le proclamera publiquement. Il saisira à un moment donné que Jésus qui est devant eux n'est pas simplement un prophète qui doit venir, mais qu'il est le Fils du Dieu vivant, qu'il est celui qui peut tout accomplir dans la vie. Et toujours ce fameux Pierre, après la Pentecôte, lorsque il y aura eu la dispensation de l'Esprit, lorsque l'Esprit sera venu sur les disciples et que le ministère de Pierre et de Jean de proclamation de l'Évangile va se faire, il nous est dit qu'on apportait des malades dans les rues, on les plaçait sur des lits et sur des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrirait quelques-uns pour qu'ils soient guéris. La promesse de Dieu est pour nous. Par Christ, il lui donne la possibilité de faire les mêmes œuvres que lui. Plus tard encore, lorsque Pierre, à la fin de son ministère, va exhorter les églises, notamment au travers des deux épîtres, il nous est dit dans le premier épître de Pierre, au chapitre 1, versets 3 à 5, cette proclamation puissante de la bouche de Pierre. Pierre, qui a douté au début, affermi par la foi, dit « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir lequel vous est réservé dans les cieux. » Pierre a beaucoup changé. Vous imaginez ces paroles de puissance. Un héritage qui peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Cette promesse est pour vous, pour celui qui place sa confiance en Jésus-Christ. Celui qui regarde à Jésus et place sa confiance en lui, ce sont des promesses pour sa vie. Et ce sont des délivrances pour sa vie. Le Seigneur Jésus, il veut que nous sortions de l'état dans lequel nous sommes. Parce qu'il veut nous appeler à une promesse plus grande. Il veut nous appeler à des victoires dans notre vie. Et ce matin, je voulais vous apporter ce message d'espérance. Jésus vient à nous pour nous sauver. Et parfois, Jésus nous invite aussi à le suivre et à répondre à cet appel. Et dans les deux cas, notre foi est mise à l'épreuve. Et dans ces deux cas, Jésus est avec nous. Et dans ces deux cas, Jésus veut être le centre de notre vie. Parce que c'est lui qui peut tout. Alors ma prière ce matin, pour terminer, c'est que le Seigneur Jésus-Christ chasse nos doutes, qu'il fasse tomber nos chaînes, qu'il enlève nos craintes et qu'il accomplisse des victoires dans notre vie pour sa gloire. Amen.